Papé Laurent, je t'écris cette lettre que tu ne liras jamais puisque tu es mort le 4 février 1915, lors de la Grande Guerre, à la main de Massige, un champ de bataille dans la Marne, bien loin de ton village du sud de la France. Mais il se dit que les paroles s'envolent, alors j'ai espoir que tu m'entendes. Un jour, appelé sous les drapeaux comme tant d'autres, tu as quitté le village, ta femme et ta fille de 3 ans. Elles ne t'ont plus revue. Gonflé à bloc par la propagande gouvernementale, vous êtes parti la fleur au fusil, enfin, quand vous en aviez un. Vous alliez tous les beautés dehors, ces foutues boches. Une simple formalité, le temps de le dire, vite fait, bien fait, et on rentre à la maison fêter ça. Vous n'aviez aucun doute. L'histoire, malheureusement, rappelle que la réalité a été autre. Le jour où tu as disparu, il y a eu un sacré embouteillage sur la route du paradis. 3 000 de tes compagnons d'infortune ont été rayés de la planète en une seule journée, autant chez l'ennemi. Bon, au moins, tu n'es pas parti seul. Il est vrai qu'en moins de 4 mois, sur cette petite colline au milieu de nulle part, mais déclarée stratégique par les hauts commandements, 50 000 hommes français et allemands ont rejoint l'autre monde. Ça fait quand même cher du mètre carré. L'enfer était sur terre. Tu étais affecté aux cuisines. Chaque nuit, tu risquais courageusement ta vie en parcourant les tranchées pour tenter de ravitailler ceux qui, glacés jusqu'aux os dans la boue de l'hiver, les vêtements détrempés, couverts de vermine, affrontaient sans relâche l'ennemi qui n'était qu'à quelques mètres. Endurant jour et nuit, tout comme vous, les épreuves du froid, des rats, des maladies, de la famine, de la soif, des engelures, le tout dans la terreur et le désespoir. Selon tes consignes, donné s'il t'arrivait quelque chose, c'est un copain du village qui est venu porter la triste nouvelle de ta disparition et qui a remis ton portefeuille à Émilie, ta femme. Tu as été fauché par un obus en apportant du café à tes potes du village. Bon, Émilie a eu du mal à encaisser, et ta mort et les circonstances. Elle a porté la colère malgré elle. Et voilà, mort en faisant le couillon pour boire le café avec ses copains. À sa décharge, elle savait pas. Il était impossible d'imaginer ce que vous viviez. Comme de nombreuses femmes, elle s'est retrouvée veuve avec une petite fille à tenter de survivre dans une période terrible. Elle n'a jamais refait sa vie. Ton nouveau statut? Soldat inconnu. Il n'y avait plus rien pour t'identifier. Tu n'es donc jamais rentré au pays. Pour que tu ne sois pas oublié, on a donné ton prénom à ton petit-fils, mon père. Et j'ai par la suite reçu celui de ta femme, Émilie. Enfant, j'aimais imaginer que c'était toi qui étais sous l'arc de triomphe. Il y a quelques semaines, je me suis rendue à la main de Massige, sur les lieux de ton ultime combat, pour te rendre hommage, ainsi qu'à tous ceux qui étaient avec toi. J'avais besoin de prendre des forces dans l'histoire, dans le destin de tous ces hommes sacrifiés. Il se dit que l'histoire du passé éclaire le présent. Alors, comme le présent est assez sombre, je suis allée chercher de la lumière. J'ai tout d'abord exploré seul ce lieu de mémoire, déambulé dans les tranchées, enjambé les barbelés, pris ainsi conscience de l'enfer vécu. Gratitude à tous ceux qui entretiennent ce lieu de mémoire aujourd'hui. J'ai prélevé un peu de cette terre et je l'ai emportée avec moi. Puis je suis allée à côté au cimetière militaire. Je me suis promenée parmi les milliers de croix et les ossuaires contenant chacun les restes de milliers d'individus. Des arbres aux couleurs flamboyantes de l'automne, des oiseaux, quelques croassements de corbeaux, le soleil. J'avais imaginé ressentir la souffrance cristallisée de tous ces malheureux. En réalité, j'ai ressenti une grande paix. Je me suis alors assise sur le bord d'un des ossuaires. Et je suis restée là. Et c'est là que j'ai ressenti la douleur. Celle qui n'avait pas été mise en lumière, celle qui n'était pas apaisée. Pas celle de ces sacrifiés, mais celle des familles marquées à vie, celle transmise aux générations suivantes, celle que nous portons. Celle de ces femmes qui attendaient, qui devaient survivre à la disparition des hommes, mari, fils, père, frère, ami, fauchés dans la fleur de l'âge, contraints de tout abandonner pour répondre à l'appel de la patrie. Ces femmes ont dû faire tourner seules l'agriculture, les industries, afin de fournir nourriture et armes. celles qui se sont battues pour nourrir, sauver leurs enfants, prendre soin des vieillards. Celles qui attendaient avec espoir et angoisse le courrier qui donnerait des nouvelles bonnes ou mauvaises. Celles qui voyaient partir leurs fils dès qu'ils étaient en âge de prendre les armes pour la boucherie, sans espoir de retour. Ces femmes soignantes qui accueillaient les horreurs, les souffrances des blessés, tentaient avec rien de faire beaucoup. Toutes ces femmes courage dans l'abnégation, le dévouement, la générosité. Et les hommes, eux, mouraient par tombereaux entiers, par milliers chaque jour. Pour tenter de donner des sépultures dignes, il y avait les tombes bouteilles, une bouteille renversée avec le nom du copain glissé à l'intérieur. Mais l'humidité effaçait vite le nom et une vie de plus tombait dans le néant, riant l'existence d'un homme, l'emportant dans l'anonymat pour l'éternité, l'éloignant de sa famille. La majorité des dépouilles de ces hommes n'ont pu rejoindre les leurs. Le gouvernement d'alors ayant interdit le rapatriement des corps, enfin, ce qu'il en restait. Difficile de faire les deuils dans ces conditions. Bien sûr, après de nombreuses années, l'État a fini par prendre soin, avec parcimonie, des veuves et orphelins de guerre, les pupilles de la nation qu'on les appelait. Un monument aux morts pour la France a été dressé dans chaque village. Les listes gravées sont longues, mais ça n'intéresse plus grand monde, on oublie avec les temps. Alors, papé, la poignée de terre de Massy, je l'ai ramenée au pays. J'y ai joint ton nom, ta photo. Tu n'es plus soldat inconnu. Tu es Laurent Bataille. Ça donne de la puissance, un tel nom de famille. Je t'ai déposé où repose Émilie. Il en a fallu du temps. Mais tu es revenu à la maison, chez toi, dans ton village. Papé, faut maintenant que je te raconte ce qui se passe aujourd'hui. Et ça risque vraiment de te contrarier. Quel que soit le pays en guerre, les soldats se battaient pour défendre des valeurs. Leur patrie, afin d'offrir paix et liberté aux générations à venir. Comme vous, les poilus de 14-18, qui avez traversé l'enfer, donné votre sang, tout sacrifié pour l'honneur de la patrie, pour la liberté. Vos familles en ont aussi payé un lourd tribut. Vous avez obéi aveuglément aux grands dirigeants d'alors qui gouvernaient ce monde. Vous avez cru à leurs discours, eu confiance dans leurs intelligences, vous qui, n'ayant pas toujours pu aller à l'école, aviez une grande considération et confiance en ceux qui avaient plus d'éducation que vous. Ceux que vous qualifiez avec déférence d'érudits. Cette caste de privilégiés avait tout pouvoir, dont celui de vie et de mort. Cette élite arrosait au champagne ses stratégies mortifères, s'octroyait des médailles au prix de votre sang, de votre souffrance, pendant que vous creviez dans la boue, n'étant que de la chair à canon et des matériaux stratégiques. Bon, post-mortem quand même, ils vous ont octroyé un beau diplôme, celui de mort pour la France. Ils étaient l'élite, les grands. Vous n'étiez rien. Vos familles démunies, affamées? Quantité négligeable. Juste de la main-d'œuvre bon marché. Faut que je te dise, papé. Plus de 100 ans après, nous sommes toujours dirigés par les mêmes grands. Enfin, leurs descendants. Mais ils ont empiré. Ils se sont reproduits entre eux dans leur caste. C'est probablement pour cela qu'aujourd'hui, ils sont encore plus dégénérés. Sans scrupules, sans humanité. De simples jongleurs de paroles. Ils ont des moyens encore plus puissants pour prendre le pouvoir, malgré que nous sachions tous lire et écrire. Eh oui, mon pauvre papé, ce que vous avez vécu a été oublié, ça compte pour du beurre, désolé. Car nous sommes nouveaux en guerre, mais une guerre plus moderne et mondiale. Une guerre sert toujours à gagner un territoire, à prendre un pouvoir que l'autre ne veut pas donner. Tu vas pas me croire. Dans notre guerre d'aujourd'hui, on ne se dispute pas un pays, une terre. C'est une guerre sans fusil, sans canon, mais bien plus sournoise, plus perverse, car son objectif final est la soumission des peuples à une poignée d'illuminés mégalos immoraux, avides de pouvoir. C'est une guerre contre les peuples qui a été déclarée. Nous sommes si nombreux, ils ont si peur que notre puissance les fasse tomber de leur tour d'ivoire, que leur valeur en bourse s'effondre, que leurs privilèges disparaissent. Ils veulent s'assurer de maîtriser la situation, alors ils anticipent. Ils sont pas fous, ils connaissent l'histoire, ils savent qu'à force d'injustice, les peuples finissent toujours par se rebeller et qu'ils ont beaucoup à perdre. Ils utilisent pour cela une arme fatale, létale. C'est tout simplement la peur. Oui, papé. Et cette peur, instillée en perfusion permanente, c'est celle de mourir. Cette menace de mourir est agitée comme un chiffon rouge devant le taureau pour qu'il fonce. Il l'agite, ce chiffon rouge, par tous les moyens à leur disposition. Et il y a sacrément du monde dans l'arène pour les aider. Plein de picadors au titre ronflant, employés obséquieux et serviles en blouse blanche. Ils ont déclaré une guerre dite « sanitaire » contre un ennemi invisible et insaisissable. C'est un virus, il a pour nom Covid-19. L'âge moyen de ceux qui en meurent est de 81 ans. Faut quand même dire que 99,95% des contaminés lui survivent. Rien à voir avec les obus de votre époque. Je comprends ton étonnement. Mais ferme la bouche, papé. On dirait un poisson rouge sorti du bocal. Mais non, c'est vraiment pas une galéjade. Ok, je sais. En 14-18, la majorité des soldats tués avaient entre 18 et 20 ans. Des gamins. Et c'était les obus, les baïonnettes, la gangrène, les amputations à vif, le froid, la faim, les épidémies. Il y avait même des nettoyeurs chargés d'achever de leurs mains leurs compagnons mourants afin d'abréger leur terrible agonie et leurs cris. 10 millions de morts. Même sans la guerre, votre espérance de vie ne dépassait pas 50 ans. Alors, peur de mourir à 80 ans, ça peut te surprendre. Je comprends. Mais c'est toujours difficile, tu sais, de voir partir ce que l'on aime. Heureusement, pour nous comme pour vous, notre élite d'aujourd'hui veille encore et toujours. Elle clame à qui veut, ou pas, l'entendre, qu'elle ne veut et n'agit que pour notre bien, pour nos enfants, pour nos anciens, pour nous protéger de cet ennemi mortel qu'est ce virus invisible. Bon, d'accord, le discours est le même quand on tend. C'est normal, puisque je te dis qu'on est en guerre. Fais un effort, papé, c'est déjà pas facile pour nous de comprendre ce qui se passe, alors te l'expliquer en plus 100 ans après. Notre chance, c'est que nos dirigeants ont de bons copains partout dans le monde. Le gratin, les meilleurs des meilleurs, des grands patrons, de grands laboratoires, altruistes, bien entendu, qui savent aussi ce qui est bon pour nous et qui proposent de sauver toute l'humanité en fournissant la super arme qui va mettre le virus KO. Bon. Il y en a qui disent que ces gens-là rêveraient d'être les maîtres du monde. Il y en a même qui insinuent que ce virus leur rend bien service. Des mauvaises langues à n'en point douter. Faut pas partir dans les délires tout de même. Mais non, papé, c'est pas un nouveau char d'assaut qu'ils ont inventé. L'arme providentielle, c'est juste une petite piqûre dans le bras. Bon, d'un produit dont on ne sait pas grand-chose, secret défense. Tu penses bien dans une guerre, si jamais l'ennemi devinait les stratégies qui vont le combattre. Une chance que notre élite soit cul et chemise avec ces grands-là, ces savants en blouse blanche, sinon je sais pas comment on pourrait survivre. Comme nous sommes assez incultes dans le domaine scientifique, pour nous simplifier la tâche et la compréhension, et justifier l'utilité de ce produit, ils l'ont appelé « vaccin ». Même toi, à ton époque, tu connaissais ce mot. C'est un mot qui a une belle image, une belle histoire, synonyme de protection, qui a sauvé des millions de vies. En plus, la référence, c'est quand même Pasteur, celui qui l'a inventé. Une référence mondiale. Un vaccin, tu sais bien, c'est ce qui évite d'être malade et de rendre les autres malades. Alors, tu penses bien, tout le monde était content, soulagé quand on a annoncé l'arrivée du vaccin. Parce que faut que tu saches que depuis plus d'un an, on a été muselé, parqué, interdit de livres, de faire la fête, d'accompagner les anciens, y compris dans la mort. Plus d'école pour les enfants, si. Bref, tu vois, le vrai bazar. Il y a quand même un truc avec ce virus. Il n'attaque ni les enfants, ni les jeunes, ni les organismes des adultes en bonne santé. Alors, ce sont eux qui sont considérés et désignés comme de dangereux propagateurs, complices involontaires de l'ennemi. Tu te rends compte? Les collabos, les enfants dangereux. Alors, on ne doit plus faire de bisous aux petits, plus de câlins, on se serre plus la main, on fait manger les enfants à la cuisine pour protéger les vieux. Pour se saluer, on fait des gestes ridicules avec le coude, avec les pieds, on appelle ça des gestes barrières. Bien sûr, il y en a sacrément des barrières maintenant. On se voit plus sourire parce qu'on porte des masques. Oui, vous aussi, quand vous étiez, on vous a fourni dans les tranchées, ça a été un soulagement, mais c'est parce que vous étiez en contact quand même avec du gaz mortel. Alors, quand l'élite et leurs copains savants ont promis que la liberté était à la pointe de la piqûre, tu penses bien, Les gens se sont précipités pour recevoir la potion magique, l'élixir de vie. Faut te dire, papé, que tout le monde n'est pas d'accord pour recevoir l'élixir. Il y en a qui doutent, qui posent des questions, même de grands savants, de véritables saboteurs. Heureusement que nos élites veillent. Sinon, ces gens-là pourraient nous faire douter, nous embrumer le cerveau avec leurs questions. Ils suggèrent qu'on s'intéresse, qu'on s'interroge sur les intérêts de nos dirigeants, de leurs grands copains sauveurs. Non mais, tu réalises ? Où va-t-on si on commence à remettre en question l'intégrité de nos dirigeants et des sauveurs ? Alors, comme à ton époque, les journalistes veillent à ce qu'on entende, ne voient, ne lisent que les sauveurs, pas les dangereux saboteurs. D'ailleurs, on leur a collé une étiquette qui sonne fort. Complotiste. Pouah ! C'est devenu une clé magique qui permet de fermer la porte à tout débat. On gagne du temps en parlant inutile pour éviter qu'ils sèment le doute. Alors, pour ceux qui n'en veulent pas de la potion magique, ces complotistes, on les empêche de travailler, d'étudier, d'avoir une vie sociale. Ils sont exclus afin de protéger ceux qui suivent consciencieusement les consignes des sauveurs. Faut quand même te dire, papé, qu'en réalité, malgré les promesses et les arguments de marketing, bah oui, c'est comme ça qu'aujourd'hui on appelle faire la réclame pour vendre un produit, ce vaccin, il empêche pas du tout d'attraper le virus et encore moins de le transmettre. Oui, d'accord, c'est juste un mot, vaccin, ça veut pas dire que c'en est un. On va pas faire les délicats, on est en guerre, merde. C'est vraiment pas le moment d'aller chercher des poils sur les œufs. Ah, j'ai oublié de te préciser que si tu te fais faire la piqûre, tu as le droit à un papier qui te donne le droit de travailler, de manger au restaurant, d'aller au cinéma, de faire du sport et de faire de la musique. Si t'as pas le papier, plus question d'aller boire le petit verre avec les copains sous les platanes d'un bar du village. Et c'est pas mamie Émilie qui viendrait te ramener du bistrot, mais la police t'en chasserait avec une amende et des menaces. Bon, en même temps, il y a des gens si fiers d'avoir le papier, de se sentir privilégiés. Il en faut vraiment peu pour être heureux, tu vois. Faudrait pas gâcher. Attention, on te l'enlève si tu ne fais pas la totalité du programme. On en est à la 3e dose du vaccin, pour te dire s'il est efficace. Si tu refuses de continuer le programme, tu repars à zéro. Même motif, même punition. Pas de bras, pas de chocolat, pas de papier, pas de boulot, pas de resto. Eh oui. C'est pour notre bien et celui d'un monde meilleur à venir. En plus, c'est gratuit. Ils sont trop cool, nos sauveurs. Bon, ils s'arrangent directement avec le portefeuille de nos élites, qui nous épargnent ce souci-là. On en a déjà bien assez. Donc, la majorité veut encore plus de doses. Ben, moi, je comprends pas pourquoi. On sait que la potion n'est pas magique, qu'elle ne fait pas ce que les camelots avaient promis. T'as raison, papé, les bonimenteurs, ça traverse les époques. Bon, maintenant que tu sais tout ça, papé, faut que je te dise le plus important. Ils ont commencé à piquer les enfants avec l'élixir, sans avoir la moindre idée des conséquences sur leur futur. Pas de recul, qu'ils disent. Mais il se trouve que la majorité des adultes est d'accord pour leur injecter le vaccin, afin d'avoir le papier pour aller au restaurant, faire du sport, des loisirs. Les enfants ont été muselés. Leurs classes sont régulièrement fermées. Non, non, t'inquiète pas, ils sont pas malades. Juste conditionnés tout petits dans la peur et la culpabilité. Le monde des élites sera préservé. Ils peuvent envisager le futur tranquille. Pas de révolution à l'horizon. De bons futurs petits soldats bien obéissants sont en préconditionnement. Leurs propres familles sont prêtes à les sacrifier sur l'autel de la consommation afin de préserver leur mode de vie, leurs vacances, leurs loisirs et croire qu'ils vont pouvoir éviter la grande faucheuse quand l'heure sera venue. Je suis si triste, papé, de te raconter tout ça. À vous qui avez donné vos vies pour nous. Et nous qui avons accepté si facilement de perdre nos libertés chèrement acquises au prix du sang et du sacrifice des hommes et femmes de ton époque. Aujourd'hui, une élite totalitaire s'attaque impunément au sacré, l'enfant. Ils sont en train de voler leur enfance, de voler leur santé, leur esprit, de prendre le contrôle de leur vie. Depuis quand a-t-on besoin d'un vaccin inefficace pour avoir le droit de travailler, de s'instruire, de se réunir, de faire du sport, de se cultiver, de faire de la musique, de faire la fête, de circuler, de voir et d'accompagner ces malades, de pouvoir exprimer notre humanité pour nos anciens, d'être heureux. Il me semblait que c'était des droits acquis, naturels, inaliénables, gagnés au prix des combats menés par les générations précédentes. Et pourtant, nous avons été spoliés de ces droits, ils ont été pris en otage par un rapt politique et nous devons maintenant payer la rançon pour les racheter, au prix certes remboursé, d'une injection d'un élixir mystérieux présenté comme le Graal et qui n'a tenu aucune de ses promesses. Où est la notion de santé dans tout cela ? Papé, j'ai la chance que tu aies pu transmettre la vie. Ce qui me permet d'être là aujourd'hui est d'avoir le courage en moi, la dignité, la générosité, la détermination du bon soldat que tu as été. Tu es mort pour sauver ton pays, ta famille, pour défendre tes valeurs. Grâce au prénom de ta femme, j'ai également dans mon ADN la force de ces femmes courageuses qui ont traversé les épreuves, les deux guerres, la grippe espagnole, la misère et la détresse. Elles sont certes tombées, mais n'ont pas désespéré du monde, puisqu'elles ont donné la vie. Elles ont su garder la foi et l'amour, ont protégé les générations suivantes, ont gardé le cœur ouvert pour accompagner vers un monde meilleur. Nous sommes minoritaires, certes, à résister, dispersés, mais cependant nombreux à veiller sur le flambeau. Et nous ne laisserons pas éteindre les étoiles de l'avenir que sont les enfants. Nous ne les laisserons pas devenir des cobayes de scientifiques sans scrupules ni valeurs, de dictateurs sans foi ni loi. Je suis pas seule à résister à poser des questions. La puissance de nos convictions, associée à la force de nos racines, celle de vos destins tragiques, nous ont été transmises. Cela fait que nous regardons droit dans les yeux ceux qui veulent nous faire taire, nous imposer leur dictature. Nous ne baisserons jamais le regard, car ce qu'ils peuvent y lire les terrorise. Il y a la lucidité, l'authenticité, l'amour, la lumière, la vie, la puissance de la liberté reçue, la conscience éclairée, que nous sommes le rêve réalisé de tous nos ancêtres avec le devoir de défendre ses héritages. Ce feu les effraie, car ils ne peuvent pas l'éteindre. Il éclaire sans fin l'obscurité où ils veulent nous plonger. Ils savent bien que l'histoire prouve que seulement 10% de résistants dans toutes les guerres ont fait basculer les peuples. Papé, votre génération a cru en toute bonne foi les discours des grands, des sachants, dans les salons feutrés de la République. Ceux-là même qui ont mené sans pitié, sans état d'âme à l'abattoir, et se sont ensuite glorifiés de batailles dans lesquelles ils n'ont pas pris le moindre risque à part celui d'expérimenter des stratégies, de passer par les armes pour l'exemple des gamins de leur propre peuple, qui s'étaient rebellés face à leur folie meurtrière, ceux que l'on a déshonorés pour avoir remis en question avec courage les ordres de ces stratèges de salon qui menaient au massacre. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui. Papé, puisse cette lettre apporter la lucidité, le grand réveil à tous ceux qui se sont laissés endormir, hypnotisés par les discours, les images, les mensonges, les contradictions. C'est pas de leur faute, papé, non. Ils se sont fait prendre par la toile d'araignée, tissée au fil de la peur. Ça leur a entortillé le discernement et emprisonné le cerveau. Il suffit d'en couper les fils en se posant les bonnes questions, en allant chercher des forces nouvelles. Papé, si tu pouvais faire lire ma lettre à tous tes potes de là-haut, y compris à toutes ces femmes qui se sont battues. Un coup de main serait vraiment bienvenu. Il suffirait de réveiller les racines de chacun de leurs descendants afin qu'ils se souviennent d'où ils viennent. Quel prix vous avez payé pour qu'ils aient leur liberté? À quel tarif aujourd'hui ils sont prêts à la négocier pour l'avenir de leurs enfants? T'inquiète pas, papé. Va en paix, nous veillons. Désolée de t'avoir donné de si tristes nouvelles.